Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et on va se réchauffer avec un petit air de Cannes dans un instant, avec Gilles Jacob qui publie son dictionnaire amoureux du festival, une mine d'anecdotes qu'il va nous livrer au micro de Bernard Lehoux. Nous irons aussi au printemps de Bourges. Le festival est aussi un tremplin pour les jeunes talents. On découvrira avec Steven Bellery, le chanteur toulousain Foé, qui sort son premier album. Tous les deux ans, le concours Menuhin permet de repérer les futures stars du violon. C'est un passage quasi incontournable pour se faire un nom dans la musique classique. Charlotte Latour a assisté à l'édition 2018. Son reportage est à suivre. Et puis à la télévision ce soir, le magazine Envoyé spécial de France 2 s'intéresse aux professionnels des jeux vidéo. Ce sera le choix d'Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Bernard Lehoux, bonjour.
Bonjour.
On commence par consulter le palmarès des meilleures ventes de livres avec RTL et le magazine L'Express.
Et avec un trio qui a de l'allure en tête des romans, Joël Dicker avec La disparition de Stéphanie Meyler, suivi de Jean-Christophe Granger, Ruffin. Mais c'est parce qu'on attend un Granger qui va sortir dans 15 jours.
Ne vous justifiez pas.
Ruffin qui signe Le suspendu de Conakry et John le Carré qui signe L'héritage des espions. Du côté des essais documents, François Hollande s'empare de la première place.
C'est pas vrai.
Avec son livre Les leçons du pouvoir, dès sa première semaine de sortie. Il devance Daniel Pénac pour Mon frère et le journaliste de Charlie Hebdo, Philippe Lançon, rescapé de l'attentat du 7 janvier 2015, qui raconte son retour à la vie dans le Lambeau.
Palmarès complet à retrouver dans les colonnes de l'Express comme chaque semaine. Dans 12 jours s'ouvrira en revanche le 71e Festival de Cannes. Et l'homme qui en a été le directeur puis le président pendant 38 ans, Gilles Jacob, publie le dictionnaire amoureux du Festival de Cannes. C'est chez Plomb, bien entendu. Et vous l'avez rencontré, Bernard.
Oui, et alors ça se lit vraiment comme un roman. Le roman du plus grand festival au monde, comme si vous y étiez. À commencer par le plus fameux de ces rituels, la fameuse montée des marches, Gilles Jacob.
Ça existait dans l'ancien palais, mais il n'y avait que quelques marches, elles étaient très dangereuses.
C'était beaucoup moins spectaculaire.
Et en fait, on ne pouvait pas y faire grand-chose. Mais quand est arrivé le nouveau palais, avec cet escalier monumental, qu'on a du reste été obligé de casser dès la première année, parce que les femmes en robe du soir et en talons se tordaient les chevilles.
Les marches étaient trop hautes,
on a ratiboisé les marches. Puis après, on a mis le tapis, on a mis la lumière, on a monté la musique, on a fait une chorégraphie de ces marches. Et c'est vrai que même aux Oscars, il y a un tapis rouge, mais il est à plat, horizontal. Donc, ce n'est pas du tout la montée vers la palme ou vers le paradis. Il y a un côté religieux au Festival de Cannes, si on peut dire.
Oui, si on peut dire. Cannes, alors Cannes ne serait pas Cannes sans les polémiques, les scandales. Et alors le plus tonitruant a été déclenché en 1973 par un film de Marco Ferreri.
La grande bouffe a été plus que diluée, ça a été même une attaque physique
de la violence,
des crachats. Tellement les gens étaient remontés, c'était un film qui était en avance sur son temps, puisqu'en fait, quatre personnages mangent pour se suicider. Ils mangent, ils baisent, ils se tuent. Voilà, en résumé, la philosophie de Marco Ferreri. Et de ce fait, évidemment, le public l'a très mal pris. Catherine Deneuve, qui était là au bras de Mastroianni, qui lui était dans le film, s'est fait agresser alors qu'elle était absolument pour rien. Donc c'est vous dire, ça a été un souvenir épouvantable.
Alors Cannes, ce sont aussi, et heureusement, des moments magiques, entrés dans l'histoire du cinéma.
Et il y en a tant raconté ici par Gilles Jacob. Alors l'un de ceux dont il est le plus fier, c'est d'avoir décroché en clôture du festival de 1982 la première d'un film, mais alors que la planète entière attendait, E.T.
Ben, c'est unique d'abord parce que ce genre de film, on ne veut pas nous les donner. Ils coûtent trop cher, les studios sont frileux, et par conséquent, je savais qu'il fallait que j'aille trouver le metteur en scène directement chez lui, ce que j'ai fait à Hollywood. Et je suis rentré dans un salon où il y avait un jeune homme de 35 ans, mais tellement juvénile, avec sa casquette qu'il a exportée dans le monde entier, et puis entouré de billards électriques avec des petites lumières qui clignotaient.
Donc un certain
Steven Spielberg.
Voilà, c'est ça.
Et du coup, il m'a montré deux extraits de son film, j'ai dit je prends. Ça pouvait mal se passer avec les critiques. Et j'attendais avec impatience. Et puis tout d'un coup, quand ils sont sortis de la salle, j'ai vu qu'ils avaient tous la larme à l'œil, les grands critiques de cinéma. C'était gagné.
«
La BO de E.T., bien sûr. Et alors, le dictionnaire amoureux du Festival de Cannes est une véritable mine d'anecdotes, mais ses plus belles pages sont consacrées aux portraits des actrices et des acteurs qui ont illuminé la croisette. Un exemple, Catherine Deneuve, croquée par Gilles Jacob d'une plume, comment dire, amoureuse.
J'avoue, très volontiers. Mais c'est vrai que Catherine, c'est la patronne, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui a traversé les générations et elle a toujours trouvé des rôles qui lui correspondaient.
En même temps, sa relation avec Cannes et le festival n'a pas toujours été très simple.
Mais elle n'aime pas. Elle vous le dira carrément. Elle n'aime pas la foule. Elle se protège. Elle a bien raison.
Impossible d'oublier l'éternelle séduction d'un visage si pur, ce visage que la lumière caresse et que l'ombre sculpte.
Ah, c'est
pas,
moi,
c'est pas mal écrit.
Pas
hein.
mal. Mais c'est ça le cinéma, c'est la lumière par rapport au visage d'une comédienne aimée et la manière dont le visage est sculpté.
Les stars, les monstres sacrés hein, ont façonné le mythe du festival.
Évidemment, et alors autre portrait marquant, celui de Gérard Depardieu. D'ailleurs, les deux portraits se suivent,
hein, oui,
par ordre
oui.
alphabétique à la lettre D, Deneuve, Depardieu. Et à Cannes, Dédé, Gérard, il a coché toutes les cases de plagiste, c'était sa première présence à un festival de Cannes, à président du jury et avec en prime la récompense suprême pour un acteur.
Prix d'interprétation masculine à Gérard Depardieu pour Cyrano de Bergerac de Rappeneau.
Et Gérard, c'est un ogre, mais c'est un ogre pas seulement au point de vue nourriture, il avale la littérature, il avale les films, et il a une finesse qui est le contraire de son apparence physique, et il a une sensibilité féminine, Gérard.
Et un souvenir peut-être particulier de Depardieu associé à Cannes.
Ah, il est double, c'est Depardieu montant à toute vitesse les escaliers pour ne pas être prisonnier dans un ascenseur avec des clients qui l'importuneraient, et le deuxième, il descendait à 7h du matin à la cuisine, où le petit marmiton à peine réveillé, et il lui commandait son petit déjeuner, il lui disait « donne-moi un tricolore ». Alors il fallait comprendre que c'était un verre de vin blanc, un verre de vin rosé, un verre de vin rouge. C'était le tricolore.
Voilà, à 7h du matin. Gilles Jacob nous offre donc son dictionnaire amoureux du Festival de Cannes chez Plon. Allez, vous voulez un dernier moment rare de l'histoire de Cannes, dont vous découvrirez, page 692, les coulisses. Nous sommes en 1995, Jeanne Moreau est présidente du jury. Arrive sur scène Vanessa Paradis.
Rendez-vous à partir du 8 mai hein, avec les envoyés spéciaux de Laissez-vous tenter, Anthony Martin et Stéphane Boutsock, qui vous feront vivre cette 71e édition du Festival de Cannes. On a passé un merveilleux moment, j'étais parti là-bas en fait. Voilà, c'était bien agréable. On va tout de suite s'intéresser à notre télévision et surtout à nos audiences d'hier avec Médiamétrie et vous, Isabelle Morini-Bosque.
Alors, audience extrêmement éclatée, ce qui explique en partie que Grey's Anatomy perde encore des fidèles. 3 800 000 téléspectateurs et près de 16% du public sur la une. En deuxième position, Top Chef, la finale en hausse. 2 800 000 téléspectateurs et plus de 13%, 25% des femmes, oui, moi aussi. Mmh. Et en troisième position, La Carte au Trésor, 2 600 000, 11%. Je pense que dans d'autres circonstances, il y aurait eu plus d'audience. Alors, côté TNT, logique, Burger Quiz, succès de curiosité, 1 900 000 téléspectateurs, très fort score. Et Michel Sardou, La Dernière Danse, sur C8, 1 200 000 téléspectateurs. Alors, puisque on en est à parler de Top Chef et de la finale, puisqu'on a donné les résultats. Moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour le gagnant, je sais que vous le partagez. Camille Delcroix, 27 ans. Une modestie, une gentillesse garantie Grantin. Je l'ai joint après la finale, où il a assuré extrêmement intelligemment le repas qu'il avait conçu.
Je ne voulais pas faire une démonstration de cuisine. Je voulais en fait que les gens se régalent. Voilà. Il ne faut pas oublier que la cuisine, c'est du plaisir et j'ai voulu en donner. J'ai trois règles. La première, c'est le goût. La deuxième, c'est le goût. Et la troisième, c'est le goût. Voilà. Il faut déjà maîtriser ce que nos pères faisaient avant de pouvoir s'amuser dans ce qu'on a envie de faire. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mon rêve, c'est devenir meilleur ouvrier de France, donc j'ai encore beaucoup de travail à accomplir. J'ai toujours les pieds sur terre et la tête bien sur les épaules. J'ai toujours la place que j'avais avant de faire l'émission, le même poste, même lieu de travail.
Votre mot de la fin ?
Merci pour tout. Moi, je ne m'attendais pas à un tel engouement vis-à-vis de moi. Et c'est un peu bizarre d'aller acheter sa baguette de pain et que la boulangère, elle nous regarde avec un grand sourire jusqu'aux oreilles. C'est tout nouveau pour moi.
Il est merveilleux, voilà. Ce garçon.
Il est extrêmement attachant. Je lui souhaite le meilleur.
Merci infiniment, Isabelle. Dans quelques instants, on part direct au Printemps de Bourges pour retrouver Steven Bellery.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
9h10, merci d'être avec nous sur la première radio de France. Le printemps de Bourges bat son plein depuis mardi soir. Stephen Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes en direct du Cher, on va dire même du département du Cher pour RTL. La soirée d'hier a été marquée par le retour de, attention, Ellie Jay.
Formidable.
Merci. Le trio ordinaire, originaire et non pas ordinaire, de Saint-Denis avait réservé au festival la primeur de ses toutes nouvelles chansons.
Et oui, souvenez-vous de leur reprise mêlant voix, violoncelle et rythmes électro, phénomène internet en 2015, 350 000 albums vendus et une victoire, révélation scène l'an dernier. Et bien cette fois, Elisa, Juliette et Lucie n'ont joué que des inédits. En voici un, c'était hier en live, le morceau s'appelle Par Ego.
Et on ne peut pas être effacé par nos anciens amants. Tu m'attires, je te repousse comme un aimant. Je n'ai pas d'orgueil, mais la force de cercer. Pourtant mon cœur gueule et quand tu le cercer. Paraît que ce sont nos cerveaux qu'on atrophie. Paraît qu'on triche dans le miroir, on se regarde que de profil. Paraît que ce sont nos cerveaux qu'on atrophie. Paraît qu'on triche dans le miroir, on se regarde que de profil.
45 minutes, pied au plancher, décor et lumière soignée, Ellie Jay a fait du chemin en 2 ans, chacune a trouvé sa place, leur alchimie est belle à voir et à entendre et surtout leur univers s'est densifié. On voit une basse, 3 violoncelles, cette fois plus de percussions. J'ai rencontré les 3 jeunes filles qui fêteront leurs 25 ans cette année. Pour RTL, elles lèvent le voile sur leur 2e album intitulé Poupée Russe et à paraître le 8 juin.
Ça parle vraiment de nous quoi, c'est nos textes, c'est notre musique, on compose toutes les 3 et avec notre manager qui écrit les textes avec nous. Donc c'est plus produit forcément, parce qu'en faisant de la scène on s'est rendu compte que bah, violoncelle voix c'était cool, mais qu'on avait envie d'étoffer tout ça, donc on a mis beaucoup plus de matière.
C'est un peu un melting pot entre nos grosses influences classiques qui seront toujours là de toute façon, et nos influences hip-hop qu'on n'a pas forcément eu l'occasion d'exploiter avant.
Toujours les harmonies vocales, les voix et le violoncelle quand même au cœur de l'album. On était déjà très liés avant parce qu'on se connaît depuis l'enfance et tout, mais là avec tout ce qu'on vit...
On est des poupées russes.
Jalouse et vomissement, plus voir ce vomissement, et ne plus jalouse et vomissement, plus voir ce vomissement.
Le trio part en tournée dès le 29 septembre.
Alors après le trio et le duo, ça peut paraître logique, Brigitte a enchaîné sous le grand chapiteau du printemps de Bourges, Steven.
Oui, elles sont arrivées bras dessus, bras dessous dans de longues robes blanches. Aurélie Saada et Sylvie O'Haraud ont présenté en live leur dernier album, Nu, paru en novembre dernier. J'avoue être assez hermétique au duo Brigitte, qui manque à mon sens de générosité. Et elles chantent tout le temps à l'unisson, ce qui crée une forme de redondance sonore sans aspérité. Mais Bus Palladium est un très beau titre, faut le dire, extrait de leur concert Berruyer. Tournées partout en France, elles se produiront notamment les 14, 15 et 16 décembre, salle Pleyel à Paris.
Allez, ouvrez vos chakras avec vos gilles. Bon, alors, c'est le phénomène Rag & Bone Man qui a clos la soirée, Steven.
L'anglais de 33 ans, format armoire à glace tatoué jusqu'au visage, a écoulé 300 000 exemplaires en un an de son disque Human. 5 musiciens, 2 choristes hier au service d'une soul blues moderne portée par une voix extraordinaire, Rag & Bone Man impeccable hier sur Your Way or the Rope. Rag & Bone Man chantera dans plusieurs festivals, notamment le 5 août au Bout du Monde, à Crozon.
Le Printemps de Bourges est aussi un dénicheur de talents. Hein. Ce soir, Foé se produira à l'Auditorium après plusieurs premières parties de Vianney. Il vient de sortir son premier album intitulé « Il, Steven ».
Oui. « il avec un accent circonflexe, ouais. Mais sans e fouet, s'inscrit dans le sillage d'artistes comme Tim Dup ou Eddie De Preto, décomplexé avec la langue, touche à tout avec les styles. Son album est un ovni, inclassable. Fouet est surtout un chanteur iconoclaste, exemple avec Coma Idyllique.
Alors, allons, tu chantes plus comme avant, t'as la mémoire courte, mais moi non. J'aime quand il va pleinement, j'ai les mains liées, je suis dans la merde, mes amis et toi, vous serez toujours là pour moi. Et j'ai plongé le corps tout entier, on m'a retrouvé le corps trempé. Et cette histoire aussi qui te serre le cœur pour plonger dans ce coma idyllique. Et j'ai plongé le corps tout entier, on m'a retrouvé le cœur trempé. Et cette histoire aussi qui te serre le cœur pour plonger dans ce coma idyllique.
Qu'ils soient rappés, slamés ou chantés, les morceaux de Fouet font mouche. Une plume tranchante, une interprétation grave et intense pour un jeune homme de 21 ans. Comment est né Fouet ? Réponse du chanteur toulousain repéré sur YouTube.
Fouet, oui, ça vient de l'auteur en fait, Daniel Defoe. Tous les petits veulent des nouvelles fringues ou des trucs comme ça. Enfin, moi, en tout cas, je voulais des casquettes. Et ma mère, elle m'a dit, bah, si tu veux cette casquette, tu dois lire ce livre, justement, Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Je l'ai lu au début par la contrainte et au final, ça a été vachement inspirant pour mes premiers textes. Donc voilà, Fouet. J'avais peut-être 12 ans, 13 ans, quelque chose comme ça. Voilà, je commençais à faire de la guitare. Ça faisait quand même quelques années que je faisais du piano déjà. J'ai commencé à travailler sur logiciel comme ça. Au début, quand je m'écoutais, etc., je me dis, ah putain, j'ai pas du tout une voix justement comme les autres et tout. C'est un phrasé en fait vraiment que j'ai travaillé au fur et à mesure. Aussi je suis passé par plusieurs styles quand j'ai fait de la musique, quoi. Genre au début je faisais justement du rock, après je me suis même essayé au rap à un moment, ben je suis passé à autre chose et au fur et à mesure je gardais un peu à chaque fois de ce qu'il y avait avant. C'est plus de la répétition et des essais quoi qui ont fait ça.
Sommes-nous vieux quand on ne compte plus les ans?
Son album s'appelle Il et vient de sortir. Fouet chante ce soir à Bourges ou le 17 octobre au Café de la Danse à Paris. Un dernier extrait, c'est un piano-voix intitulé Bouquet de pleurs.
Ton bouquet de pleurs, il y en aura plein. Des aventures d'une nuit, tu vas pleurer et regretter. Oui, regretter ce que tu vas faire, ce que tu vas faire, tout ce que tu vas faire.
Ben je découvre. Oh, j'ai raté la fin de la chanson, c'est pas beau. C'était pour vous dire, Steven, que je découvre une personnalité. On a passé un très bon moment avec Fouet. Il y a un climat. Merci c'est beaucoup, clair. Steven Bellery, oui, en direct de Bourges pour RTL. Alors, on vous retrouve demain et vous nous raconterez notamment les concerts de Charlotte Gainsbourg, Edith Preto ou Orelsan.
Bah, je serai là.
Le festival est loin d'être terminé. Allez, à demain.
À demain.
Dans un instant, nous parlons télévision. Il y a beaucoup, beaucoup de surprises dans l'envoyé spécial de ce soir. Et c'est ce dont va nous parler notamment Isabelle Morini-Bosque. Alors, on signale, puisque nous allons parler télévision avec Isabelle Morini-Bosque, on signale évidemment les séries Section de Recherche sur la Une, Scorpion sur M6, mais vous avez été interpellé, m'avez-vous dit, par un sujet d'envoyé spécial sur France 2, Isabelle.
Et même par deux sujets inédits. Tiens, oh là pour le prix. D'abord, écoutez un peu ça.
Les gamers originaux, attention, le EI qui a été lâché. Toaster. Peut-être attention avec l'Ostal, il va peut-être prendre le quai, Toaster.
Non, on n'est pas dans un stade de foot, façon OM. C'est une scène, une arène où évoluent des champions 2-2-2. Évidemment,
bah de jeux
vidéo. Oui. Et oui, des milliers de personnes, voire des dizaines de milliers en Corée, par exemple, vont dans d'immenses salles de spectacle, voir jouer des jeunots de 18 à 25 ans, après ils sont un peu cramés, qui sont des joueurs officiels de jeux vidéo, des joueurs professionnels, avec une moyenne pour certains de 500 actions par minute de la main. Et un entraînement de 7 à 10 heures d'affilée par jour. Ils sont désormais entraînés, suivis par des managers, des ostéos, des chasseurs de tête, car il y a désormais de vrais Zidane du jeu, au point que la Corée, où c'est considéré comme le deuxième sport national, avait inclus des compétitions parallèles lors des derniers Jeux Olympiques et veut en faire une discipline olympique, ce qu'on pourrait appeler par exemple des jeux vidéo olympiques. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet-là.
Donc vous entendez, vous espérez que j'enchaîne, c'est bien ça?
Oui.
Alors, un sujet de santé publique vous a également passionné, Isabelle.
Oui, voilà. Écoutez, imaginez, vous êtes installé dans un avion, vous planez si j'ose dire, et brusquement vous sentez une étrange et une très désagréable odeur de chien mouillé. Ça s'appelle un fume event, textuellement, une émanation de gaz, et cela surviendrait tous les 2000 vols, ce qui est quand même énorme. Écoutez cet échange entre un commandant de bord anglais et la tour de contrôle sur un avion l'année dernière, Paris Heathrow.
Bonjour, message d'urgence.
Quelle est la nature de l'urgence ?
Nous avons un incident d'émanation.
Pouvez-vous répéter la nature de l'incident ?
Des émanations toxiques, de type gaz toxique.
On a senti une odeur étrange de chaussettes sales, de chiens mouillés. Mes yeux ont commencé à me brûler. J'ai ressenti des maux de tête, un goût étrange dans la bouche. J'avais envie de vomir.
Une passagère s'inquiète du comportement inhabituel de l'équipage.
J'ai demandé au chef de cabine ce qui se passait. Il m'a répondu que tous les membres de son équipe tombaient les uns après les autres.
Certains de mes collègues étaient sur le point de s'évanouir. D'autres étaient désorientés. Ils disaient ou faisaient des choses totalement incohérentes.
Nous aurons besoin des équipes médicales au sol.
Combien de passagers sont affectés ?
Environ 11 membres d'équipage sont affectés et quelques passagers.
C'est le début d'une incroyable enquête étayée, éclairée, complète, honnête, montrant que c'est en fait un vrai problème de santé publique, le premier rapport sur ces fuites remontant à 1953. En fait, tout viendrait de la nécessité de réchauffer un air qui, à 10 000 mètres d'altitude, est à moins 55 degrés, pour que dans l'avion, la cabine soit à la température du sol. Oui. On utilisait au début de l'aviation en grande ligne des compresseurs électriques, mais de près les années 60, l'air épuisé, ce qui est effectivement malin a priori, épuisé dans les réacteurs. Avec l'huile des réacteurs, ça peut être contraignant pour les passagers, ces fuites. C'est en fait très dangereux pour le personnel navigant. Les victimes se multiplient, il y a eu un mort. Aujourd'hui, décidé à engager des actions. Écoutez ce brillant commandant de bord ayant transporté des passagers durant 21 ans sans dommage et qui brusquement, en octobre 2016, a vu sa vie basculer.
C'était un vol Nuremberg-Londres. Nous avons senti une odeur désagréable dans l'appareil. Je suis allé à l'arrière de la cabine et je l'ai senti. Elle était très intense. Quand je suis revenu vers l'avant, au moment de donner le code d'accès au copilote pour pouvoir entrer dans le cockpit, mes jambes étaient si faibles que j'ai failli m'écrouler. J'étais incapable de quoi que ce soit. Je n'arrivais plus à penser ni à répondre aux questions du copilote. Mon cerveau ne fonctionnait plus. J'avais l'impression d'être sous, comme si j'avais bu une bouteille entière de vin rouge. C'était effrayant. J'étais très doué et tout à coup, je n'arrivais même plus à faire des choses banales sur mon ordinateur. Aujourd'hui encore, mes capacités mentales sont en dessous de la moyenne. J'ai vécu un enfer.
Alors, il ne peut plus travailler, mais la compagnie continue à lui verser son salaire à vie. Principal accusé, le triclésylphosphate.
Voilà,
un composé aux propriétés neurotoxiques. Vous en entendrez reparler, d'autant qu'une avocate américaine s'apprête à attaquer Airbus après avoir attaqué Boeing. Félicitations tout de même à Air France et EasyJet, seule compagnie à avoir accepté de répondre aux questions d'envoyés spéciaux à leur façon, mais au moins elles ont répondu. C'est un formidable sujet.
Je vous fais remarquer que les deux vols cités allaient à Londres, ou passaient par Londres. Après, vous en conclurez ce que vous voulez. Allez, nous allons maintenant parler de violoniste en devenir. Charlotte Latour, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez à Genève le week-end dernier.
Oui, j'ai pas pris l'avion.
Voilà, c'est très bien. Genève, où se tenaient les finales du concours Menuhin, prestigieux concours international de violon.
Un petit peu les Jeux Olympiques du violon. Les concours internationaux dans le monde de la musique classique, c'est un sésame qui ouvre beaucoup de portes. Le concours Menuhin a été créé en 83 par le plus grand violoniste de tous les temps, Yehudi Menuhin. Lui-même enfant prodige, il a milité, entre autres, pour l'apprentissage de la musique à l'école. Cette compétition se tient tous les deux ans. Cette année, 317 jeunes de 10 à 22 ans ont envoyé leur candidature audio et vidéo par Internet. 17 nationalités représentées et sur les 317 dossiers, 22 ont été retenus dans la catégorie junior, 10 à 15 ans, et 22 autres chez les seniors, 16 à 21 ans. Ça, c'est l'été des 4 saisons de Vivaldi par l'un des deux vainqueurs des juniors. Il a 10 ans. Christian Lee est australien, le plus jeune concurrent, arrivé ex aequo avec Chloé Chua, 11 ans, de Singapour. Les compétiteurs se sont produits devant un jury de musiciens, parmi eux le violoniste star Maxime Vengerov.
À cet âge-là, ils sont comme trois pommes, enfin en tout cas comme un alto.
Ah mais c'est complètement ça. Les 6 finalistes juniors sont arrivés sur scène, vous savez, avec des bonnes joues de visage enfantin, mais cela dit très déterminés et puis surtout déjà très virtuoses. Pourtant, c'est violent comme exercice. Être propulsé comme ça sur scène sous les dorures du Victoria Hall de Genève, entouré d'un orchestre avec 1700 personnes dans le public. Et malgré tout, il joue sans aucune fausse note, des œuvres d'une difficulté extrême, avec des œuvres contemporaines également. Et c'est à se demander s'ils sont heureux, ces enfants, s'ils ont vraiment une vie et des jeux d'enfants. Étienne Darambert est le président de la fondation qui aide à financer la compétition.
Quand on a 10 ans ou 11 ans et qu'on gagne la compétition Menuhin, on peut s'en croire tout d'un coup. Et au fur et à mesure du développement de sa carrière, carrière de soliste bien entendu, c'est une carrière qui vous demande de beaucoup voyager, vous pouvez perdre un peu certains repères. Et ça peut être primordial de demander comment gérer son ego, comment gérer son physique, combien de concerts par an on peut accepter. Ne fût-ce que pour éviter un burn-out trop tôt.
Car le concours Menuhin, même si on ne le gagne pas, permet de rencontrer d'autres musiciens, des mécènes ou même des physiothérapeutes également. Et puis la participation à la compétition apparaît plus tard dans la biographie comme gage de qualité. Pour Nathan Mierdel, franco-allemand de 20 ans, finaliste senior, l'essentiel c'est de profiter de cette expérience unique. Le plus stressant pour lui, c'était l'attente.
Le plus difficile, c'était à chaque fois les attentes des résultats, en fait, je trouve. C'est le pire, c'est d'attendre, en fait, parce qu'on n'est pas dans l'action. On a envie d'y aller, quoi, donc c'est assez difficile. Et puis évidemment, avant les résultats, c'est toujours, on a envie de savoir, quoi, donc c'est toujours assez stressant.
Stress, cela dit, pour lui dans l'interprétation par cœur de ce concerto numéro 3 de Saint-Saëns. Le garçon fait déjà partie de l'Orchestre National de France, ça l'a sûrement aidé un petit peu à être en confiance. Chez lui, comme chez la gagnante arménienne de 18 ans, Diana Adamian, on sent une maturité, pas juste dans la personnalité, mais une maturité dans l'émotion. Vous savez, cette sensation pour le public d'avoir les poils qui se dressent là. Tous les candidats n'ont pas le talent de provoquer cela. Et si la virtuosité est privilégiée dans le choix du lauréat junior, c'est vraiment l'expressivité dans l'interprétation qu'on a valorisée chez les seniors, ces grands de demain. Alors peut-on faire carrière sans passer par la case concours dans le classique? Victor-Julien Laferrière est le violoncelliste lauréat du dernier concours Reine Elisabeth.
Il y a d'autres gens qui arrivent à impressionner ou à se révéler auprès de gens, de chefs d'orchestre, de directeurs de salle, etc., par d'autres moyens. Et c'est tout aussi bien, évidemment. Mais ça, s'il y a un côté un peu moins prévisible, voilà, il y a un côté un peu plus aléatoire, en tout cas.
Les gagnants remportent un violon qui leur est prêté pendant un an, ou plus si affinité. Prochaine édition du concours Menuhin dans 2 ans, ce sera aux États-Unis, à Richmond, en Virginie.
Merci beaucoup, Charlotte Latour. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec Julien Courbet. A tout de suite. Merci à toute l'équipe, monsieur Julien Courbet, c'est à vous.
Eh bien, c'est parti, nous sommes dans les starting blocks. Monsieur Calvi, tout va bien de votre côté ?
Tout va très bien.
J'ai le questionnaire qualité, vous avez été bien reçu ce matin ?
Parfaitement.
Le café était plutôt bon, moyen, surtout, dégueulasse, à vomir.
Ce matin, il était plutôt bon.
Plutôt bon.
Et l'hygiène est tout à fait acceptable.
Parfait, les toilettes, rien de particulier ?
Moi, je suis un obsessionnel de l'hygiène dans les toilettes, donc je peux vous dire que j'ai fait le tour 3 fois.
Bon, parce que moi j'y étais lors de la dernière émission. Il y avait quelqu'un de la rédaction qui, visiblement... Alors, il n'y avait personne quand j'y étais, mais... malade avant. Est-ce qu'il va mieux ?
Quelqu'un de la rédaction, qu'est-ce que vous en savez, mon vieux ?
Mais parce qu'à 9h30, il n'y a pas d'émission avant, c'est forcément quelqu'un de la rédaction. Est-ce qu'il va mieux ? Parce que je compte y retourner aujourd'hui.
Je ne sais pas, mais je vais mener l'enquête.
S'il vous plaît.
Nous avons de grands reporters à la rédaction
d'RTL. Je vous souhaite une bonne journée.
Bonne émission.